Et puis il y a toujours, encore et toujours, j'ai envie de dire, les étoiles, tout simplement. Les étoiles que la proximité optique nous rend familières et dont on sait qui plus est qu'elles ont un cycle de vie singulièrement proche du nôtre. Les étoiles naissent, vivent et meurent comme nous. C'est peut-être cette familiarité liée à l'extraordinaire éloignement qui a fait des étoiles un pôle d'aspiration formidable, inspiration scientifique bien entendu, mais littéraire. Et c'est cette conjugaison, si je puis dire, des deux pôles à laquelle s'est attelé Thierry Grillet. C'est une trame romanesque et toute proche de la science-fiction qu'il a concoctée pour nous. Et de cette trame romanesque, vous allez découvrir la trajectoire périssable des étoiles qui va s'inscrire maintenant avec le concours de Jérôme Bouvier, Robert Moscovitch et Monique Gros.
Pétia mit une éternité avant de pouvoir dessouder ses paupières. Rien à faire. Après toute cryogénisation, on n'évitait pas cette impression pénible d'accablement. Progressivement, sa conscience, à la manière d'un liquide en phase gazeuse, se vaporisa pour réoccuper enfin le volume intégral de son corps. Les milliards de liaisons synaptiques qui modelaient cette conscience n'avaient donc pas eu à souffrir de cette première étape. Un quart de siècle au bas mot, première étape d'une croisière sidérale qui devait le conduire dans la cabine inconfortable d'un salyut vers Alpha du Centaure.
La fin d'évolution des étoiles dépend de leur masse. En fait, il y a trois façons finalement de terminer sa vie. Les étoiles qui ont une masse inférieure à la masse du Soleil, inférieure à 90% de la masse du Soleil, n'ont finalement pas encore terminé leur vie. Elles ont un temps de vie si long que même les plus anciennes, celles qui se sont formées tout au début de l'histoire de la galaxie, sont toujours vivantes. Toujours présente, toujours en train de brûler en leur centre l'hydrogène et de transformer en hélium. Ces étoiles ne sont pas encore mortes et tout ce qu'on sait de leur mort est le résultat de travaux théoriques, de calculs faits sur des ordinateurs. Bon, ça, ce sont les étoiles de plus faible masse. Les étoiles dont la masse est comprise entre une fois la masse du Soleil, comme le Soleil, donc, et puis jusqu'à 8, 9 fois la masse du Soleil, terminent leur vie relativement tranquillement. Elles brûlent pendant un temps très long qu'on appelle la séquence principale, l'hydrogène en hélium, et puis ensuite, elles peuvent, dans des phases évoluées, brûler l'hélium, le transformer en carbone et en oxygène, et parfois même aller au-delà et brûler l'oxygène et le carbone pour former du néon. Ça, ce sont les étoiles entre 8 et 9, 10 fois la masse du Soleil. Mais revenons aux étoiles de moins de 8 fois la masse du Soleil. Donc, elles brûlent l'hélium, le transforment en carbone et en oxygène, et puis dans une phase terminale, elles subissent des instabilités, mais ces instabilités ne sont pas trop violentes. Les couches externes de l'étoile sont perdues dans le milieu interstellaire de manière assez douce. L'étoile donne lieu à une structure qu'on appelle nébuleuse planétaire, donc perdent leur couche externe de manière assez tranquille. Et le cœur central, qui fait environ 60% de la masse initiale de l'étoile, devient un objet petit, gros comme la Terre environ, et dont la masse est donc 60% de la masse initiale de l'étoile. Donc un objet très dense, pour vous donner une idée, une cuillerée à café d'une telle matière stellaire a une masse de 1 tonne. On dit que l'étoile est dégénérée, et ces étoiles portent le nom de naines blanches, donc parce qu'elles sont petites, et parce que les plus brillantes d'entre elles, en tout cas, qui sont les plus faciles à voir, qui donc historiquement ont été mises en évidence les premières, ont une couleur blanche. Mais ensuite, ces étoiles se refroidissent et deviennent jaunes, oranges, rouges, et s'éteignent à l'observation.
Là, il s'agit des naines blanches, mais pour les supernovae, le phénomène est tout à fait différent.
Phénomène tout à fait différent et qui concerne les étoiles les plus massives, au-delà de 10 fois la masse du Soleil. Alors, ces étoiles sont suffisamment massives pour brûler, évidemment, l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone et en oxygène, et puis ensuite, la chaîne des combustions nucléaires se poursuit jusqu'à l'élément le plus stable qui est le fer. C'est-à-dire que l'oxygène peut brûler, donne du néon, le néon peut brûler, l'oxygène et le néon brûlent, donnent du silicium, le silicium brûle et donne du fer. Ces étoiles ont juste avant d'exploser, une structure dite en pelure d'oignon, avec un cœur de fer entouré de couches successives riches en silicium, oxygène, néon, carbone, hélium, et une gigantesque enveloppe d'hydrogène. Si on veut faire une représentation à l'échelle, si on met l'étoile dans une sphère de 100 mètres de rayon, eh bien, le cœur central de fer à la taille d'une tête d'épingle et les couches successives de carbone, d'oxygène, de néon, puis d'hélium sont contenues dans une orange. Et au-delà de l'orange, on a une gigantesque enveloppe d'hydrogène très diluée et très étendue. Donc un cœur central de fer très petit dans une gigantesque enveloppe d'hydrogène. Alors, que se passe-t-il? Ce cœur de fer peut subir une très violente instabilité. Ne rentrons pas dans les détails, mais ce cœur de fer, quand sa masse dépasse une certaine valeur critique, qui est environ 1,5 fois, donc quand sa masse dépasse de 50% la masse du Soleil, il devient instable et implose. Il pèse lourd, si vous voulez. Enfin, 1,5 fois la masse du Soleil, c'est beaucoup, mais quand la densité, la masse volumique au centre de l'étoile atteint une valeur faramineuse, qui est de l'ordre de 100 millions de tonnes par cuillère à café, il se passe un événement très curieux qui est une sorte de rebond. L'étoile donc implosait et puis rebondit sur elle-même et provoque en retour une très violente explosion qui va se propager dans les couches externes. On a une situation un peu compliquée où les couches externes sont éjectées très violemment dans le milieu interstellaire à des vitesses qui atteignent jusqu'à 1/30 de la valeur de la vitesse de la lumière, 10 000 km par seconde. Donc les couches externes propulsées dans le milieu interstellaire et le cœur central, lui, tout petit, après l'implosion, il reste un objet extraordinairement dense qu'on appelle une étoile à neutrons. Peut-être pour les étoiles les plus massives, un trou noir. Les choses ne sont pas véritablement fixées. Les théoriciens ne savent pas très bien si on peut former un trou noir et à quelles conditions on forme un trou noir. Donc une étoile à neutrons ou un trou noir.
Vous êtes triste de voir mourir les étoiles?
Je pense qu'il ne faut peut-être pas faire trop de sentimentalisme stellaire. En plus, il y a l'idée d'un cycle, effectivement, puisque les étoiles, en explosant, rejettent, dans le cas d'une étoile massive, jusqu'à 90% de leur masse dans le milieu interstellaire. Elles rejettent un gaz dont la composition chimique est un petit peu différente du gaz qui a servi à les constituer. Dans le cas d'une supernova de type 2, le gaz rejeté dans le milieu interstellaire est plus riche en carbone, plus riche en oxygène, plus riche en néon, plus riche en sodium que le gaz initial. Et le carbone et l'oxygène que nous avons dans notre organisme a été fabriqué par des supernovae du passé, qui ont donc fabriqué le carbone, fabriqué l'oxygène, et donc si nous existons, nous le devons à des morts stellaires. Donc d'une certaine manière, il faut aussi se réjouir de la mort de certaines grosses étoiles, puisque ce sont elles qui fabriquent les éléments dont on a besoin.